Bonsoir à toutes et à tous. Sous le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 14 octobre 2024. En direct de Washington, Rosine Ounezero. Pour commencer, les titres. Au Tchad, la presse en ligne s'inquiète des mesures annoncées par les autorités pour renforcer le contrôle des médias à 2 mois des élections législatives et communales. En Tunisie, des experts de l'ONU dénoncent une mise en danger des migrants et des réfugiés lors d'opérations de secours en mer. Le Hezbollah affirme lundi être engagé dans 2 combats violents contre l'armée israélienne. Le prix Nobel d'économie a récompensé lundi des chercheurs sur la compréhension des inégalités et des écarts de richesse entre les nations. Et dans notre partie magazine, aujourd'hui est la journée des peuples autochtones ici aux États-Unis, une journée qui a lieu tous les deuxièmes lundis d'octobre.
La mission du festival familial est de partager les ressources des artistes et des créateurs de la diaspora indigène à Los Angeles.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, la presse en ligne s'inquiète de mesures annoncées par les autorités pour renforcer le contrôle des médias avant les prochaines élections législatives et communales prévues le 29 décembre prochain. Le point avec Antoine Roger Bolamba.
L'association des médias en ligne du Tchad a exprimé dans un communiqué ses préoccupations après des annonces du président de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Abderrahmane Barka. Désormais, tout journal privé, imprimé ou en ligne, qui diffuserait des productions sonores ou audiovisuelles au lieu de se limiter à ses articles écrits, verra sa parution suspendue, de même pour tous les médias privés qui utilisent Facebook avec des insignes de leurs organes pour diffuser d'autres informations que les contenus originaux, a déclaré mercredi le président de la Hama. Il a plaidé pour un assainissement du paysage médiatique tchadien. Ces mesures, selon la MET, interviennent dans un contexte de détérioration du climat politique, sécuritaire et de rétrécissement de la liberté de presse au Tchad. Dénonçant un climat délétère et les risques de fraude électorale, les partis d'opposition ont pour leur part annoncé leur refus de participer aux élections du 29 décembre.
Le candidat du parti au pouvoir, Frelimo, à la présidence du Mozambique, Daniel Chapo, a été donné vainqueur dans la capitale Maputo avec 54% des suffrages. C'est ce qu'a annoncé dimanche la commission électorale en plein décompte des voix pour les scrutins présidentiels et parlementaires. L'indépendant Venancio Mondlane, soutenu par le parti Podemos, en a obtenu 34%, tandis que Ossoufo Momad, du principal parti d'opposition, la RENAMO, en a recueilli 9,6%. Le gouvernement sénégalais compte augmenter le revenu par tête de 50% en 5 ans et allonger l'espérance de vie de 3 ans tout en réduisant le déficit et la dette. Au terme d'un vaste plan présenté lundi en grande pompe 6 mois après son installation, le président Bassirou Diomaye Faye a présidé aux côtés de son premier ministre Ousmane Sonko à Diamandjo, près de Dakar, au lancement d'un ambitieux programme de transformation de l'économie et de l'État courant jusqu'en 2050 et désigné à rompre avec le sous-développement, la dépendance et le surendettement. La présentation de ce plan, baptisé Sénégal 2050, intervient quelques semaines avant les législatives anticipées du 17 novembre. Des experts de l'ONU ont dénoncé une mise en danger des migrants et des réfugiés en Tunisie lors d'opérations de secours en mer ou de transfert vers les zones frontalières. Les précisions avec Yacouba Ouedraogo.
Nous avons reçu des rapports choquants faisant état de manœuvres dangereuses lors d'opérations d'interception de migrants, de réfugiés et de demandeurs d'asile en mer. C'est ce qu'ont déclaré dans un communiqué des experts de l'ONU citant des coups et le chavirement des bateaux. Il note qu'entre janvier et juillet, 189 personnes, dont des enfants, auraient perdu la vie lors des traversées et 265 lors des opérations d'interception en mer, ajoutant que 95 personnes sont portées disparues. Les experts font état d'allégations de transferts arbitraires forcés vers les frontières avec l'Algérie et la Libye, sans aide humanitaire. Les 4 rapporteurs spéciaux disent aussi s'inquiéter des informations selon lesquelles les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile subsahariens sont soumis à des degrés de violence plus élevés de la part des forces de sécurité tunisiennes. À l'été 2023, l'Union européenne et la Tunisie ont conclu un accord qui prévoyait une aide européenne de 105 millions d'euros pour lutter contre l'immigration clandestine.
Des affrontements intercommunaux dans le sud-est du Kenya ont fait au moins 18 morts ces deux dernières semaines, a annoncé la police, qui dit avoir renforcé son dispositif dans les zones concernées. Vendredi, le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, avait déclaré 12 zones du comté de Tana River dangereuses et troublées, dont la ville de Bura, où les combats ont été les plus intenses. Le chef de la police kenyane, Douglas Kandja, a demandé aux habitants de rendre leurs armes à feu pour éviter une nouvelle escalade de la violence. Les problèmes ont commencé lorsque le gouvernement du comté a offert des terres pour accueillir les personnes déplacées par les crues du Tana, le plus long fleuve du Kenya. Un réseau soudanais de secouristes a annoncé dimanche que 23 personnes ont été tuées la veille dans une attaque aérienne menée par l'armée sur un marché de Khartoum situé à proximité d'un camp des forces de soutien rapide. Depuis vendredi, les affrontements se sont intensifiés à Khartoum où les avions de l'armée ont bombardé le centre et le sud de la ville dont la majeure partie est contrôlée par les FSR. L'armée a avancé vers Omdurman, village adjacent à Khartoum où des affrontements ont eu lieu samedi selon des témoins.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden devrait se rendre en Allemagne cette semaine, a indiqué dimanche une source gouvernementale après l'annulation d'un voyage en raison de l'ouragan Milton. Il viendra à Berlin vendredi pour une visite d'une journée. Selon les médias allemands, M. Biden va rencontrer le chancelier Olaf Scholz et le président Frank-Walter Steinmeier. Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient devraient figurer en bonne place dans son programme. Des sirènes d'alerte ont retenti ce lundi dans le centre d'Israël à cause de projectiles tirés du Liban, selon l'armée israélienne, qui a ensuite annoncé avoir intercepté toutes les menaces aériennes. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
Les sirènes ont notamment retenti à Tel Aviv, centre économique du pays, selon la police, qui a précisé que des recherches étaient en cours pour identifier des sites touchés par les débris de roquettes. Ce barrage de tir intervient au lendemain d'une frappe de drone du Hezbollah qui a tué 4 soldats vers Haïfa dans le nord lors de l'attaque la plus meurtrière contre Israël depuis le début de l'offensive terrestre israélienne dans le sud du Liban fin septembre. La défense aérienne israélienne, notamment le système du dôme de fer, intercepte la plupart des projectiles tirés du Liban. Le Hezbollah a dit être engagé dans des combats violents avec l'armée israélienne dans le sud du Liban. La Croix-Rouge libanaise a fait état de la mort de 18 personnes dans une frappe israélienne sur le village d'Aïto dans le nord du Liban. C'est la première fois que ce village, situé dans une région montagneuse à majorité chrétienne, est visé par les bombardements israéliens.
Le prix Nobel d'économie a récompensé ce lundi l'américano-turc Daron Acemoglu et les britanno-américains Simon Johnson et James A. Robinson pour leurs recherches sur la compréhension des inégalités et des écarts de richesse entre les nations. Le point avec Eric Manirakis.
Les chercheurs, tous les trois basés aux États-Unis, ont été distingués pour leurs études sur les institutions et la façon dont elles affectent la prospérité, a exposé le jury du Nobel. Réduire les énormes différences de revenus entre les pays est l'un des plus grands défis de notre époque. Les lauréats ont montré l'importance des institutions pour y parvenir, a déclaré Jacob Stevenson, président du comité du prix en sciences économiques cité dans un communiqué. En examinant les différents systèmes politiques et économiques introduits par les colonisateurs européens à travers le monde, les trois hommes ont démontré le lien entre la nature des institutions politiques et la prospérité, a expliqué le jury. Les sociétés où l'état de droit est médiocre et où les institutions exploitent la population ne génèrent pas de croissance ni de changement positif, a-t-il souligné. Les recherches des trois lauréats sont en faveur de la démocratie. Ils y insistent sur la nécessité de cadres politiques et économiques qui soient inclusifs et sur le rôle essentiel des institutions économiques pour assurer une croissance de long terme.
La crise diplomatique entre l'Inde et le Canada, qu'elle accuse d'enquêter sur des membres de sa représentation à la suite du meurtre en 2023 sur le sol canadien d'un chef séparatiste sikh, s'est intensifiée avec le rappel lundi par New Delhi de son haut représentant à Ottawa. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Eric Manila-Kiza.
La Côte d'Ivoire et le Ghana invitent les pays de la CEDEAO à accélérer les efforts pour l'avènement de l'éco, le projet de monnaie unique de cette sous-région, selon l'agence ECOFIN. Le président ivoirien Alassane Ouattara souhaite que ce processus de monnaie unique soit effectif au plus tard en 2026 et qu'Abidjan est prête pour se conformer aux exigences de convergence dès l'année 2025. Boeing a annoncé une réduction dans les prochains mois d'environ 10% de ses effectifs mondiaux, ce qui devrait concerner quelques 17 000 emplois pour tenter de surmonter ses difficultés financières. L'avionneur a également annoncé un report supplémentaire des livraisons de son nouveau gros porteur 777X et l'arrêt de la production du 767 cargo en 2027. Il a aussi prévenu que ses résultats du troisième trimestre allaient être plombés par de lourdes charges du fait notamment de la grève de plus de 33 000 ouvriers depuis mi-septembre. L'action Boeing a terminé la séance en hausse de 3% à la bourse de New York. Le ministre chinois des Finances a annoncé samedi l'émission d'obligations spéciales pour un montant équivalent à près de 300 milliards d'euros au cours des trois prochains mois afin de relancer la deuxième économie mondiale en perte de vitesse. Pékin veut aider les grandes banques commerciales d'État à reconstituer leur capital de base, à améliorer leur résistance aux risques et leur capacité de prêt et à mieux servir le développement de l'économie.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
Le Cameroun arrache son ticket pour la prochaine CAN Maroc 2025.
Oui, grâce à leur courte victoire 1-0 devant le Kenya, les Lions Indomptables concrétisent un deuxième succès de suite dans la double confrontation face au Kenya, battu à l'aller 4-1. Le Cameroun totalise ainsi 10 points en 4 journées et est sûr de finir au pire des cas deuxième de sa poule J et est donc rassuré d'être au rendez-vous de Maroc 2025. Hier, le Burkina Faso a été le premier pays à valider son ticket pour la phase finale grâce à sa victoire contre le Burundi 2-0 à Abidjan. Le sélectionneur Brahma Traoré s'en réjouit tout en félicitant ses joueurs.
On s'est senti à Ouagadougou parce que même au stade de Katout, on ne pouvait pas être supporté mieux que ça. Les deux victoires sont partagées avec tout ce monde. Je pense qu'en entrant dans l'histoire, je rentre avec toute une équipe, les assistants, les joueurs aussi qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions nous qualifier après 4 matchs. Moi, je suis un fruit du football local. Je suis un entraîneur local. Donc, ce sont les locaux qui entrent dans l'histoire. Il faut compter également sur l'expertise nationale et à moindre frais.
Brahma Traoré, sélectionneur du Burkina Faso. Après 4 journées, les étalons comptent 3 victoires et un match nul en tête du groupe L avec 10 points, soit 3 de plus que le Sénégal 2e. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en 2021, rejoindront le Burkina Faso au Maroc l'an prochain. S'ils battent le Malawi demain, le Maroc, qualifié d'office en tant que pays hôte, a pulvérisé la République centrafricaine 5-0.
Et puis de nombreuses nations sont proches de valider leur ticket en cas de victoire demain, mardi.
C'est le cas du Mali en cas de succès face à la Guinée-Bissau dans le groupe I. La championne en titre, la Côte d'Ivoire, première de la poule G avec 9 points, se qualifierait aussi si elle bat la Sierra Leone. Pareil pour l'Égypte en tête du groupe C avec 9 points. Face à la Tanzanie, un match nul suffira aussi à la République démocratique du Congo qui compte 3 victoires en 3 sorties. L'Angola est aussi en pole position pour voir le Maroc. En cas d'un match nul contre le Niger, c'est la même situation pour le Nigeria qui affronte la Libye et le Bénin qui défie le Rwanda.
Après l'arrêt Diarra, la FIFA ouvre le dialogue sur les règles de transfert.
Suite à l'arrêt Lassana Diarra de la Cour de justice de l'Union européenne, l'instance mondiale du foot dit prévoir de discuter avec le club des paramètres de calcul des indemnités et des sanctions en cas de rupture contractuelle et du mécanisme de délivrance du certificat international de transfert permettant aux joueurs de changer de club. En litige avec son ancien club du Lokomotiv Moscou, Lassana Diarra, ancien milieu de terrain international français, avait été condamné en 2016 à payer 10,5 millions d'euros d'amende pour rupture abusive de son contrat. Les éventuels clubs voulant recruter ce joueur pouvaient être solidaires de l'amende infligée selon un point du règlement de la FIFA précisément contesté devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour a jugé certaines règles de la FIFA encadrant les mutations entre clubs contraires aux droits de l'Union européenne et de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo, la grève des professeurs de l'université Marien Gouabi de Brazzaville se prolonge pour une troisième semaine ce lundi 14 octobre. Les professeurs réclament le versement de salaires impayés de plusieurs mois. Les étudiants soutiennent les enseignants, mais s'inquiètent des conséquences sur le déroulement de leur année académique. Eric Manila-Kiza, adjoint à Brazzaville, Jean-Didier Bélé, président de l'intersyndicale de l'université Cité Marien Gouabi de Brazzaville.
Nous sommes à 2 mois et demi sans salaire et nous demandons à ce que le gouvernement de la République du Congo nous verse tous les salaires impayés. Nous avons un complément de notre salaire, ce sont des heures de vacation. Et nous réclamons également ces heures de vacation qui s'élèvent à 6 ans. Nous demandons à ce que l'État congolais nous paye à peu près ou au moins la moitié de 16 heures. C'est vrai que le dialogue avec les institutions ou les autorités gouvernementales et universitaires n'est pas rompu. Nous sommes en contact, mais jusque-là, ce qu'ils nous ont proposé n'a pas encore donné satisfaction à nos doléances. Il y a une troisième doléance, hein. C'est la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement de la République. On en a fait par le passé. Il y a eu un moment comme ça d'impayés accumulés et on en était sorti grâce à ce protocole d'accord. Nous voulons que le gouvernement réitère ou répète ce mode de règlement de conflit, c'est-à-dire le protocole d'accord entre les deux parties. Et il y a un gain de part et d'autre. Et donc, actuellement, l'ensemble des travailleurs de l'université Marien Gouabi sont à la maison, ils viennent pas travailler. L'université Marien Gouabi, c'est 46 500 étudiants. L'université de Nissassoum Guesso fonctionne actuellement. Les enseignants sont payés. C'est le même pays, bien sûr, mais nous demandons simplement la justice. Voyez-vous, les enseignants du lycée, donc du secondaire, collège et lycée, sont payés régulièrement. Et nous qui sommes du supérieur, nous ne sommes pas payés. Voilà pourquoi. Jusqu'au moment où je vous parle, nous restons en grève. Et la grève à Brazzaville, à l'université Marien Gouabi, est très bien suivie.
Et que vous dit le gouvernement quand les autres sont payés et que vous, vous n'êtes pas payé à l'université Marien Gouabi? Que répond l'État?
Non, je réponds que les caisses du trésor sont vides et qu'on leur laisse du temps pour réfléchir, chercher des moyens. C'est-à-dire que pour l'instant, ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour payer. C'est un peu la réponse que nous avons de façon froide, hein, nette et précise. Il n'y a pas d'argent, le pays est endetté et il faut payer les dettes extérieures, l'encours de l'endettement. Ce sont leurs raisons, mais nous attendons, nous voulons que nous soyons aussi compris.
Quelles sont les répercussions ou les conséquences sur la vie académique?
Les concours d'entrée dans les écoles, les grandes écoles de formation, ne se déroulent pas. L'université Marien Gouabi, c'est 11 établissements. On a 4 écoles, 5 facultés et 2 instituts. Et pour l'instant, rien ne se déroule. Pas d'examen, pas de correction de copies, pas de concours d'entrée. Jusque-là, la rentrée universitaire à l'université Marien Gouabi n'a pas encore eu de rentrée académique et universitaire.
Jean-Didier Mbélé, président de l'intersyndicale de l'université Marien Gouabi de Brazzaville.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Gabon, l'ex-parti au pouvoir brise le silence et se relance dans le jeu politique. À l'occasion de sa rentrée politique, le PDG a déclaré son soutien aux militaires au pouvoir depuis le coup d'État du 30 août 2023. Parmi les grands absents du rendez-vous organisé par la nouvelle direction du parti, Ali Bongo Ondimba, l'ancien chef de l'État gabonais, vit toujours en résidence surveillée au nord de Libreville. Le point avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Près de 4000 militants se sont mobilisés dans un palais des sports de Libreville de 6000 places environ. Pour une rentrée politique post-coup d'État, le PDG réapparaît sur la place publique, fragilisé par les démissions en cascade et des guerres de posture en interne. Angeline Gomain, secrétaire générale par intérim du PDG.
Nous devons nous réinventer pour pouvoir nous relever les défis du présent et du futur. Camarades, militantes et militants, le temps est venu de rebâtir. Le temps est déjà là pour construire, pour reconstruire, à brève échéance, une offre politique durable, utile et crédible.
Après plus d'un demi-siècle de règne à la tête du Gabon, le parti fait son introspection hors des arcanes du pouvoir. L'heure de la repentance semble avoir sonné pour Paul Biya Ogemba et les siens. Il est le premier vice-président du PDG.
Il faut accepter la critique justifiée et consultée. Il faut accepter le débat d'idées. Il faut rechercher la justice, l'honnêteté, privilégier l'équité. Si le parti n'exerce plus le pouvoir en tant que tel, il doit au moins en être une composante incontrôlable.
À l'heure de la renaissance et de la reconstruction du Parti démocratique gabonais, les responsables des organes de base se disent prêts pour un nouveau départ. Christophe Effa, membre de l'Union des jeunes du PDG dans la province du Haut-Lantem.
Nous sommes là pour pouvoir prendre des instructions, prendre les nouvelles directives, apprendre auprès de nos aînés, de nos dirigeants, pour que nous allons sur le terrain relayer la bonne information qui est celle que le parti vit.
En pleine survie, le PDG se convainc d'être encore capable de grandes conquêtes politiques, Solange Nathalie Ogula, membre de l'Union des femmes du parti.
Nous, les femmes de l'UFPDG, toutes provinces confondues, sommes debout, nous sommes là, nous militons, nous restons fermes à notre tronc, notre baobab, et la suite nous dira.
Le PDG soutient la transition dirigée par les militaires, tombeur d'Ali Bongo Ondimba. L'ex-président gabonais, par ailleurs ancien président du Parti démocratique gabonais, a renoncé récemment à la vie politique. Ismaël Obianze pour VO Afrique, Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ovoué FM à Libreville.
Le président Joe Biden a visité hier les zones touchées par l'ouragan Milton en Floride et a annoncé un nouveau financement d'un demi-milliard de dollars pour améliorer le réseau électrique. Même si les efforts de secours se poursuivent, les responsables avertissent que la désinformation se propage rapidement à l'approche des élections de novembre. Un reportage de Patrick Brosnan en Caroline du Nord, le récit Mouamadou Oumfa.
Le président Joe Biden a visité dimanche les zones dévastées par l'ouragan Milton en Floride. Il a annoncé un financement de 612 millions de dollars pour soutenir les communautés touchées par les ouragans Milton et Helene.
Ce financement permettra non seulement de rétablir l'électricité, mais aussi de renforcer le réseau électrique de la région et de réduire la fréquence et la durée des coupures de courant alors que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents.
Cependant, la désinformation sur la réponse du gouvernement fédéral s'est rapidement propagée. Le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré dans l'émission Face the Nation de la chaîne CBS qu'il était vraiment préoccupé.
C'est extrêmement pernicieux. Nous avons des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont droit à l'aide, mais qui ne la demandent pas à cause de ces fausses informations. Nous avons besoin d'individus, d'élus, de personnes qui ont la possibilité de démystifier ces fausses informations. Et nous n'en voyons pas assez.
La candidate démocrate Kamala Harris a passé le week-end en Caroline du Nord. Samedi, elle s'est jointe aux opérations de secours, alors que la partie occidentale de l'État est toujours aux prises avec les conséquences de l'ouragan Helene. Son rival, le candidat républicain Donald Trump, a critiqué l'administration Biden pour ce qu'il considère comme une mauvaise réponse aux ouragans. Le candidat de M. Trump à la vice-présidence, J.D. Vance, a été interrogé dimanche sur les faussetés véhiculées par l'ancien président, notamment sur le fait que l'aide aux sinistrés républicains est intentionnellement retenue par les agences du gouvernement fédéral ou donnée à des sans-papiers.
Nous avons des membres républicains du Congrès qui sont sur le terrain qui disent qu'ils doivent appeler la Maison-Blanche pour obtenir de la nourriture et de l'eau pour la FEMA. Je pense
que nous avons eu une réponse incompétente à cette crise particulière.
La VOA a visité les zones dévastées par l'ouragan dans la ville d'Asheville, en Caroline du Nord, et s'est entretenue avec certaines personnes touchées sur la réponse du gouvernement.
D'après ce que j'ai vu juste dans les airs, les hélicoptères, je vais dire que je pense qu'il y a une réponse décente.
Nous n'avons pas encore reçu d'aide de notre gouvernement, de la FIMA ou de la municipalité, mais cela ne saurait tarder.
Alors que les ressources s'épuisent, l'administration Biden demande au Congrès d'approuver des fonds supplémentaires pour les catastrophes avant l'élection présidentielle du 5 novembre.
Ici aux États-Unis, depuis 2019, l'État de Californie célèbre officiellement la journée des peuples autochtones au lieu de Columbus Day, reconnue par le gouvernement fédéral qui tombe tous les deuxièmes lundis du mois d'octobre. Ginia Dulot de la VOA a assisté à la célébration au musée Getty de Los Angeles qui a attiré environ 2000 personnes. Rissi Yakuba Ouedraogo.
Andrea Jimenez, fondatrice du Hair Club LA, nous fait visiter un jardin au musée Getty de Los Angeles lors d'un festival célébrant la journée des peuples autochtones. Elle montre aux visiteurs des plantes indigènes de Californie, par exemple l'achillée millefeuille, une plante à fleurs connue pour ses propriétés médicinales.
Les peuples indigènes l'utilisaient pour guérir les blessures, les indigestions, toutes sortes de choses, et elle est connue comme l'une de ces plantes que l'on a qualifiée de panacée.
La troisième célébration annuelle de la journée des peuples autochtones au musée Getty a attiré environ 2000 personnes, ce qui fait de cet événement l'un des plus importants de Los Angeles, selon la fondatrice du festival Chelsea Anderson.
La mission du festival familial est de partager les ressources des artistes et des créateurs de la diaspora indigène à Los Angeles. Nous aimons la composante éducative, le partage des traditions du passé, mais nous célébrons aussi les voix contemporaines et les artistes contemporains.
L'un des artistes, Chigo Bililiso, danseur de la Wild Horse Native American Association, affirme que la journée des peuples indigènes est une reconnaissance de son peuple qui vivait sur ces terres avant l'arrivée des Européens.
Je me souviens qu'en grandissant, certains professeurs ne savaient même pas que nous existions. Certaines personnes pensent que nous avons disparu, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes ici, nous sommes vivants, nous nous portons bien et nous prospérons. Et nous transmettons cela à la génération suivante, nos chants, nos danses, nos traditions.
L'État de Californie ne célèbre pas le Columbus Day, l'ayant remplacé par l'Indigenous People's Days en 2019. Solange Aguilar, une poétesse amérindienne, raconte qu'en grandissant, elle a eu du mal à célébrer le jour de Christophe Colomb.
On raconte qu'il a découvert l'Amérique, mais on ne peut pas découvrir quelque chose quand il y a déjà des gens sur place. Il est important d'apprendre l'histoire, de comprendre qu'il était vraiment un mauvais garçon, qu'il était horrible et que son histoire est une chose réelle, le véritable traumatisme que nous portons.
Erika Brownwall, qui a quitté Columbus le mois dernier pour s'installer à Los Angeles, célèbre pour la première fois la journée des peuples autochtones avec sa famille. Elle pense que la reconnaissance des peuples autochtones va assurer un meilleur avenir à ses enfants métis.
Il est important pour nous que nos enfants puissent grandir sans que les gens fassent autant de suppositions à leur sujet sur la base de la couleur de leurs cheveux, de la couleur de leur peau ou de leur nom de famille.
Le Columbus Day est actuellement un jour férié fédéral aux États-Unis, contrairement au Indigenous People's Day, dont le statut varie d'un État à l'autre. Ce lundi, la ville de New York a organisé l'un des plus grands défilés de Columbus Day du pays, célébrant l'héritage, la culture et les réalisations des Italo-Américains.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero à la mise en onde, José Morissin. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et VOA et nos pages Facebook et Instagram pour un suivi de l'actualité 24/24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Dakar sur 102 FM.
91.5 FM Bujumbura, Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.